88.3.
What's up, Sentinel?
Ça arrache, hein? 88.3.
Radio Campus. La science infuse.
Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Radio Campus pour discuter ensemble du sujet du VIH. Moi c'est Quentin, je suis VP cinéma à Tributaire, et Tributaire c'est le bureau des étudiants en sciences d'Orléans.
Moi c'est Alix, je suis vice-présidente générale de l'association FEM, qui est l'association féministe de l'Université d'Orléans. Donc nous sommes en présence ce soir donc, de la docteure Lucille Mollet, qui est chercheuse en immunologie et enseignante-chercheuse à l'Université d'Orléans. Bonjour Lucille.
Bonjour à tous.
Et du docteur Thierry Prazuc, médecin-chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital d'Orléans. Bonjour monsieur Prazuc.
Bonjour.
La conférence de ce soir est présentée, donc vous l'avez compris, par FEM et Tributaire. C'est une conférence sur laquelle nous travaillons depuis quelques temps pour présenter aux étudiants et aux étudiantes de l'Université d'Orléans le VIH et les avancées du VIH. Cette conférence va être répartie en quatre parties. La première sera le VIH, où en est-on ? Donc l'histoire et la préhistoire du VIH. Ensuite, nous verrons le VIH, où en est-on ? Les contextes sociaux et discrimination. La mortalité et espérance de vie.
Alors, nous sommes au début des années 80. On est en Californie. Une maladie bizarre atteint plusieurs patients, majoritairement gays, et l'on ne sait pas trop ce que c'est. Certains médecins parlent de pneumonie rare, mais ils sont surtout bien perdus. Et la première publication scientifique apparaît en 1981 et identifie que c'est une MST, maladie sexuellement transmissible. On comprend qu'il y a des syndromes d'immunodépression, mais on n'en comprend pas du tout la cause. À ce moment-là, on ne pense pas du tout à un virus, mais plutôt à une infection localisée qui pourrait être causée par un agent toxique que certaines personnes auraient pris. Comme il y a beaucoup d'homosexuels touchés, on pense notamment aux poppers, une substance particulièrement prisée dans les milieux homosexuels. De nombreuses autres fake news ont circulé. Les évangélistes américains voient notamment cette maladie comme une punition divine. Et de 1983 à 1987, le KGB soviétique lance même une campagne de désinformation nommée Infection pour répandre la rumeur que le département de la défense des États-Unis a créé le virus. Donc depuis, il y a eu de nombreuses recherches scientifiques et l'information a grandement avancé. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer l'histoire et la préhistoire du VIH, s'il vous plaît ? Et Madame Mollet, vous pouvez commencer si ça vous va.
Effectivement, dans cette histoire et préhistoire, tu en parlais, Quentin, les premiers cas décrits l'ont été dans une revue, et le docteur Prazuc pourra confirmer, qui était à l'époque écrite au niveau du CDC aux États-Unis, mais régulièrement consultée par toute la communauté des médecins en infectiologie. Et donc, elle a été rapportée par le docteur Gottlieb. C'est vraiment une publication qui fait date où, comme tu le disais, il rapporte un tableau clinique de 5 jeunes hommes homosexuels qui ont été soignés dans 3 hôpitaux différents de Los Angeles. Et ce qu'il décrit, c'est des personnes qui ont des maladies opportunistes, c'est-à-dire globalement des maladies que normalement, quand on a un système immunitaire qui va bien, eh ben, ces maladies-là, on ne les a pas. On a la pneumonie, cette forme-là de pneumonie associée à cet agent, elle ne se développe que lorsque le système immunitaire ne fonctionne plus. Le CMV, c'est un virus de la famille des herpesvirus. Tant que le système immunitaire fonctionne, on n'en a pas, etc. etc. Et ces gens ne se connaissent pas. Et effectivement, comme tu le disais, de par les habitudes de vie de ces 5 jeunes hommes, ont été tout de suite suspectés de l'hypothèse d'une maladie à transmission sexuelle. Et très rapidement, le nombre de personnes qui ont ce tableau clinique augmente de plus en plus. Certains sont décrits en France. Le docteur Prazuc vous a sélectionné quelques petites photos. Et apparaît le mot sida la même année. On parle de syndrome d'immunodéficience acquise, hein, c'est-à-dire un système immunitaire qui ne fonctionne plus. Et à l'époque, la seule façon de définir la pathologie, en fait, le virus n'a pas encore été identifié. Il n'y a pas de test de détection. Et c'est un ensemble de symptômes qui va définir ce qu'est ce qu'est le sida. Et on définit le sida par rapport à un patient type qui aura un sarcome de Kaposi. Le docteur Prazuc vous en reparlera dans quelques instants. Et ces fameuses maladies opportunistes qui peuvent être fatales pour l'individu et qui sont rapportées pour classer sida. Quand on a ces pathologies-là, un certain nombre, ça définit le stade sida. Et les patients n'ont pas d'autres maladies, mais ils ont un système immunitaire qui est incapable de réagir. Et surtout, ce qui va être une des caractéristiques, c'est qu'ils n'ont plus de lymphocytes TCD4. On apprendra au fur et à mesure du temps que, en fait, le virus cible ces cellules. C'est pour ça qu'il n'y en a plus. Et donc, très rapidement, là, on est en 82. Donc, vous voyez que d'après l'article de 81, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps. Il y a eu des études rétrospectives qui sont sorties dans le même journal. Et au mois de juin, on rapporte des cas de positivité chez des hétérosexuels, hommes et femmes. Au mois de juillet, des cas chez des hémophiles. Et puis, au mois de décembre, des enfants de moins de 2 ans qui souffrent de cette pathologie. Ce qui fait que dès 82, on sait que les modes de contamination, globalement, sont par voie sexuelle, par voie sanguine et de la mère à l'enfant. En 83, on le voit. Je vous le fais voir tel qu'il a été décrit. Alors, c'est pas très radiophonique, je vous le fais voir, mais on pourra le mettre comme illustration sur l'endroit où sont les podcasts. C'est la première fois où on voit le virus par microscopie électronique. Et c'est ce papier qui a fait date, qui a permis à Françoise Barré, dans l'équipe de Luc Montagnier, de pouvoir mettre en évidence le virus par microscopie électronique. Et comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre d'auteurs. Ce qui fait la force de cette publication, c'est un peu l'image que vous avez de nous deux autour de cette table, c'est que vous avez à la fois des chercheurs, Françoise Barré n'est pas médecin, elle est chercheuse biologiste, et puis vous avez des gens comme le docteur Rousiou, le docteur Rosenbaum, qui sont des cliniciens, donc proches des patients. Et c'est un petit peu cette émulation qui a permis, en France, à l'Institut Pasteur, de pouvoir définir cet agent viral, donc qui ne venait pas du KGB. On verra au cours de la préhistoire dont je vais vous parler d'ici quelques temps. Vous le savez maintenant, Covid oblige. Lorsque on parle d'une nouvelle infection, le truc qu'on cherche, c'est le patient zéro. Donc forcément, dès le début des années 80, on cherche le patient zéro. Et ça tombe sur un pauvre gars qui n'avait rien demandé. Bon, il était malade et en plus, il est mort, donc on ne va pas non plus l'accabler. Mais Gaëtan Dugas, puisque c'est son nom, c'était un steward canadien qui faisait énormément de rotations entre Los Angeles et New York. Et donc, comme c'était les deux villes principales où l'épidémie était florissante, il a été tout de suite ciblé. Pour une autre partie également, c'est que lorsqu'il était en train de... lorsqu'il arrivait dans une nouvelle ville, hein, il se faisait très rapidement de nouveaux amis. Et il a pu rapporter jusqu'à 250 partenaires par an au cours des 3 dernières années avant son hospitalisation pour avoir déclaré un sida. Et ce qui était très utile, c'est que ça fait beaucoup, hein, 350 par an, pour garder un peu trace, hein, et puis pas retourner voir la même personne si ça n'avait pas été terrible, et puis A contrario, retourner voir une personne chez qui ça avait été pas mal, il avait des petits cahiers où il notait un peu les choses. Ce qui a définitivement validé le fait que c'était une maladie sexuellement transmissible et qui a permis de décrire les chaînes de contamination de personne à personne. Et ce qui est moins drôle, c'est qu'il a fait l'objet ensuite de moult discriminations. Il y a eu des livres sur lui, « L'homme qui a donné le sida aux USA ». Ça fait très peur. Sauf que ce n'était pas vrai. Et assez rapidement, les communautés touchées, lors de manifestations et... ont plutôt appelé, ça a duré pendant 30 ans, hein, le patient zéro qui n'était pas le patient zéro, et les communautés ont plutôt appelé à un développement de la recherche plutôt qu'à cette hystérie ambiante qui servait un peu à rien. Donc pendant 30 ans, on a cru que c'était lui. Dans les années 2000, c'était clair que non. Le premier événement qui a définitivement prouvé que ce n'était pas lui, c'est que des prélèvements, des lames histochimiques avaient été montées en République du Zaïre et en RDC dans les années 59-60. Et ces prélèvements oubliés ont un peu été ressortis du placard parce qu'il se trouve que les médecins à l'époque avaient décrit un tableau clinique qui ressemblait au sida. Et donc, la technologie avançant, on a pu, depuis ces très vieux prélèvements, ressortir du matériel génétique de ces lames de 1959-1960, et elles se sont avérées positives pour le virus. Ce qui a permis de défricher la préhistoire, c'est une comparaison de séquences. Une comparaison de séquences avec le règne animal. Donc, en quelque sorte, quel est le pangolin du HIV, si on fait une image qui tourne autour du Covid, en fait, c'est un très gros pangolin. Vous avez ici une représentation graphique que vous ne verrez pas non plus en radio. Fallait vous déplacer. Et dans cette représentation graphique, c'est un arbre. Et plus les feuilles sont proches dans l'arbre, plus les séquences sont similaires. Et donc, vous voyez en bas, le HIV est très proche d'un virus apparenté chez le singe qui s'appelle le SIV pour immuno... Enfin bref, S, c'est simien. Oui. Et le SIV du chimpanzé est le virus le plus proche du HIV chez l'homme. Donc ça a amené les chercheurs à essayer de réfléchir sur quand est-ce que le virus du singe, du chimpanzé, était passé chez l'homme. Donc ça, c'est des choses qui sont assez simples pour les gens qui savent le faire. Moi, je ne sais pas, mais c'est assez simple. Et ça s'appelle l'horloge moléculaire. On remonte dans le temps et on essaye, en comparant les séquences, de voir quand est-ce que le SIV... a gentiment été donné par un chimpanzé à l'homme. Et en fait, on remonte au début du 19e siècle. Donc vous voyez que notre steward canadien n'avait rien à faire dans cette histoire. Et on est passé de 1 à quelques cas autour de 1910 aux 39 millions de personnes qui vivent avec le VIH en ce moment. Alors, je ne vous raconterai pas, sinon, parce que je peux vous en faire des heures et des heures, hein, mais l'idée, c'est que je passe la parole un jour. On a réussi à retrouver d'où venaient les chimpanzés, puisque les chimpanzés sont assez grégaires. Donc, en fait, quand ils ont un SIV, ils restent à l'endroit où ils sont, parce que le SIV, dans les singes de l'Ancien Monde, ne les rend pas malades. Ils se sont habitués à la maladie, ils ne meurent pas d'immunodéficience. Et en fait, le passage s'est fait avec des chimpanzés qui vivent dans la forêt du sud-est du Cameroun. Donc comment on arrive à une infection mondiale et à la description en 81 à Los Angeles ? Eh bien, ce virus a beaucoup voyagé. Déjà, cette contamination s'est faite par des personnes qui étaient en train de remonter le fleuve et donc qui allaient servir un petit peu en viande au niveau de la forêt autour de leur long périple pour aller d'une ville à l'autre. Et il y a eu une fois où le chimpanzé n'était sans doute pas d'accord, donc... il y a eu une bataille, l'homme n'est pas mort et il est reparti en pirogue avec son virus. Ensuite, lorsque l'on regarde les disséminations, on va réussir à retomber sur nos souches de tout à l'heure hein, qui venaient de Kinshasa et de République démocratique du Congo. Et pour ça, en fait, la route qu'a pris le virus, elle est relativement bien suivie au cours du temps. La dissémination du virus a suivi la construction du chemin de fer en Afrique. Et progressivement, en ayant ensuite suivi le chemin de fer, eh bien, on a eu une épidémie qui s'est propagée partout au niveau du continent africain. Donc après la pirogue, le train. Et puis, il a fallu passer l'océan. Et en fait, l'explication du passage de l'océan, elle se fait en ayant également conscience de certains faits historiques, et notamment l'indépendance du Congo en 1960. Ça veut dire que le Congo est débarrassé du colon belge et toute l'infrastructure repart. Les personnes qui tenaient l'administration, les médecins, enfin bref. Le pays est laissé à l'abandon. Et quand on est à l'abandon et qu'on a la chance de ne pas être le premier de la famille, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle la grande sœur ou le grand frère. Et en l'occurrence, la sœur aînée de l'Afrique, c'est Haïti. Haïti est le premier pays qui s'est débarrassé de la colonisation. Et il était à l'époque dans un état, en 1960, dans un état autre que celui qu'il est à l'heure actuelle. Ce qui fait qu'il y a eu des instituteurs haïtiens, des médecins, tout ce qui peut faire tourner la société, qui est allé en République au Congo ou au Zaïre, mais c'est le même, ça dépend de l'époque à laquelle on se situe. Et puis ensuite, eh bien, ils sont repartis en Haïti. Et forcément, quand ils sont allés au niveau du Congo pour prêter main forte, c'était des jeunes qui avaient du temps devant eux, qui étaient célibataires, qui sont restés quelques temps, qui ont été contents de faire la fête, et puis qui sont repartis avec des trucs... enfin bref, vous avez compris, quoi. Donc on arrive comme ça à une infection qui rejoint Haïti. Et puis à Haïti, le passage aux États-Unis se fait... entre guillemets, facilement, parce que Haïti, c'est un coin de vacances et c'est aussi un coin où les Américains achètent du sang pour aider au niveau de leurs hôpitaux. Contrairement à ce qui se passe en France, le don du sang n'est pas gratuit dans ces pays-là. Donc, c'est un moyen pour les gens qui n'ont pas trop de sous d'arrondir leur fin de mois. Mais bon, avec... tout cela, on a eu, on ne sait, là par contre, on n'a pas d'idée, on ne sait pas comment le virus est passé là. Donc vous voyez qu'il y a eu un grand voyage du virus depuis la forêt du Cameroun, avec un passage par la pirogue, le train, le bateau, l'avion, on arrive au niveau des États-Unis et on rejoint comme ça l'Europe. Avec l'anecdote, si on veut l'amener jusqu'au bout, un marin norvégien, en 1976, il n'a pas été diagnostiqué en 1976, mais il est mort en 1976 après des voyages au niveau de Pointe-Noire. Et en fait, il n'a pas disséminé l'infection. Donc en fait, l'infection aurait pu arriver en Europe bien plus tôt.
Alors moi, elle m'a fait un beau panorama de l'historique. Quelques petites précisions. La première chose, c'est qu'effectivement, vous pouvez vous poser la question de savoir comment c'est passé du singe à l'homme. Alors, probablement, vous savez, il y a une autre maladie qui est transmise par les singes, parce qu'on chasse les singes, c'est le virus Ebola. Et c'est parce qu'il y a la consommation de la viande de singe et qu'on dépèce le singe et qu'il y a probablement... Donc c'est pas une histoire de sexe, malheureusement pour un, voilà, mais c'est une histoire de sang. En découpant l'animal, on se blesse avec la machette et il y a un contact de sang à sang. Il faut savoir que les singes africains, les chimpanzés, ont un virus, ont le virus du sida du singe, mais qu'ils ne les tuent pas. Hein. Leur charge virale est très importante. Donc, ils ont un facteur de transmissibilité important. Mais ils ne meurent pas. Pourquoi ? Parce que les singes africains sont issus d'une lignée de singes d'il y a quelques millions d'années qui sont différents de ceux d'Asie, puisque les singes d'Asie sont différents des singes d'Afrique. Et eux, les singes d'Asie, ils meurent du sida. Au bout de 3 ans, on leur a injecté le virus du singe, le virus du sida du singe, et il va décéder très rapidement. Et donc, en fait, les singes actuels qui sont en Afrique sont issus de ceux qui ont résisté à une épidémie de virus de sida du singe il y a un certain nombre de centaines de milliers ou de plusieurs millions d'années. Le deuxième point que je voulais signaler, c'est que il y a un événement dont tu n'as pas parlé, qui s'est passé en 1974 à Kinshasa. Que s'est-il passé à Kinshasa en 1974? Vous n'y étiez pas né, et pourtant il y a eu le match de boxe Joe Frazier contre Cassius Clay. C'est quoi ce match? C'est un match qui a duré 1 mois et qui a attiré énormément de personnes de Californie, notamment des homosexuels, qui sont venus soutenir l'un Cassius Clay, l'autre Joe Frazier, et qui ont eu donc beaucoup de relations sexuelles et qui sont revenus après en Californie. 74, 81, ça fait 7 ans et c'est l'incubation moyenne entre le moment de la contamination et l'apparition des symptômes de type pneumocystose.
Alors, je le rajoute dans mon cours.
Alors, il y a eu les années noires. À partir de 81, on a dit effectivement que c'était une maladie, le gay syndrome, que c'était lié uniquement aux homosexuels. Puis après, on s'est aperçu que c'était une maladie transmissible, sexuellement transmissible, mais finalement, c'est transmissible, hein, puisque c'est transmis par le sang. Le virus de la panique, beaucoup de choses, jusqu'à le virus s'appelait le LAV en France, et ensuite il s'est appelé le VIH. Le sida ne passera pas par moi en 87, première campagne française d'information sur le sida, avec l'apparition quand même assez rapide des premiers traitements en 1985. L'AZT a été le premier traitement qui a été mis sur le marché, vous voyez, 4 ans après, et on n'a pas pensé que c'était un médicament qui allait tuer. Pourtant, il a quand même plus de toxicité que le vaccin contre le Covid. Hein? Et aujourd'hui, on met quelques mois à fabriquer un vaccin contre le Covid lorsque la pathologie apparaît quelques mois précédemment. 91, le ruban rouge, et puis il y a eu la campagne du préservatif à 1 an. Alors pourquoi je mets 81-95? Parce qu'en 85, on a eu les premiers traitements, le premier traitement, mais il était insuffisant. On a eu le deuxième traitement qui était une bithérapie, on en reparlera. Et c'est à partir de 1995 qu'il y a eu les trithérapies qui réellement ont réussi à permettre un contrôle de l'infection VIH. Alors, je vais vous montrer quelques images parce que le problème de la banalisation du VIH, c'est que on le voit pas. Donc on dit, finalement, est-ce que ça existe encore? Il y a beaucoup de méconnaissance, notamment parmi les jeunes, par rapport à ça. Vous savez, sur les paquets de clopes, maintenant, vous voyez le cancer du poumon, vous voyez un gars qui est intubé. Donc c'est censé vous faire peur. Bon, vous continuez à fumer, mais normalement c'est constitué pour vous faire peur. Donc, je vais essayer de vous faire un petit peu peur. Donc, ça, c'est la pneumocystose, hein, Apneumocystis carinii. Ce sont les premiers cas de sida qui ont été décrites, comme Lucille vous l'a montré. Donc, le poumon, c'est un peu pareil que la pneumonie du Covid qui tue les patients. hein, qu'on a eu les patients qui étaient diabétiques, obèses. C'est à peu près la même chose, c'est une pneumonie qu'on dit interstitielle. Voilà, on ne savait pas la traiter à l'époque. Après, autre maladie opportuniste, eh bien, la toxoplasmose cérébrale. Alors, toutes ces virus, ces bactéries, on les a en nous, en réalité. Le cytomégalovirus, la toxoplasmose. On fait des toxoplasmoses, on fait des infections, une mononucléose infectieuse. Et puis, mais, en fait, ces virus, ces bactéries, elles ne disparaissent jamais du corps. Hein? Contrairement à la rougeole. Vous avez fait une rougeole, elle a totalement disparu. Eh bien, il y a un certain nombre de pathogènes qui restent dans le corps, mais qui sont contrôlés par le système immunitaire. Et lorsque le système immunitaire est trop bas, eh bien, ces pathogènes se réveillent, mais à partir de son propre corps, pas à partir de l'extérieur, pas à partir d'une transmission. Alors évidemment, on peut faire éventuellement une grippe plus grave, et encore, on n'a pas montré que les patients qui avaient une immunodépression sévère avaient une grippe plus grave. Donc la toxoplasmose cérébrale, vous voyez, c'est ces abcès dans le cerveau qui donnent des paralysies, et ensuite, si on n'arrive pas à les traiter parce qu'on ne sait pas comment les traiter, eh bien, on évolue vers la mort. Voilà. Et puis, il y a le sarcome de Kaposi. Ce sarcome de Kaposi, vous le voyez ici, ce sont ces taches noires qui sont liées à un virus du groupe herpès, HHV8, voilà, qui se développe notamment dans la population gay. Alors, on le trouve chez quelques femmes, mais c'est principalement dans la population gay, vous voyez. Et c'est très stigmatisant, notamment quand c'est au niveau du visage. Hein. Et donc, ça a un impact, évidemment, sur la discrimination de ces personnes à cette époque. Et puis, par exemple, la candidose orale. Voilà, j'espère que vous aurez... notamment celle-ci. Et voilà, donc on a perdu beaucoup, comme la syphilis au 19e siècle, elle a tué Guy de Maupassant, au 20e siècle, Lénine, etc. Beaucoup de personnes qui étaient connues dans le monde des lettres, bah dans le milieu du showbiz, mais également dans le monde des lettres. Hein. On a perdu, bien évidemment, Freddie Mercury, Thierry Luron, Klaus Nomi, Bruno Carette, vous savez peut-être pas qui c'est. C'est le quatrième des nuls. Hein, donc Bruno Chabat, Chantal Lobby, Dominique Farrugia. Et donc Bruno Carette, lui, il est revenu en 89 d'Égypte. On a dit qu'il avait un virus et il est mort d'un virus bizarre. En fait, il avait une leucoencéphalopathie multifocale progressive dans le cadre d'un sida. Il est décédé. Il était hors de question de dire, à cette époque-là, en 1989, qu'il était mort du sida. Hein? Et beaucoup de ces personnes-là, on ne disait pas qu'ils étaient morts du sida. Parce que c'était la honte. Ils avaient eu un comportement sexuel abominable. Donc, on ne pouvait pas en parler. Alors là, on ne voit pas sur cette diapositive. Bon, grosso modo, plus les CD4 baissent, et plus il y a un risque d'infection, du développement de la maladie sida. Et voilà, donc on le voit mieux ici. La zone rouge, c'est lorsque les lymphocytes CD4 sont en dessous de 200. Leur valeur normale, c'est entre 500 et 1500. Combien de temps il faut pour arriver à 200 CD4 ou à zéro? On diagnostique des patients, ils ont 5 CD4. Ils ont une espérance de vie inférieure à un an. Aujourd'hui, moi, j'ai des patients, je les ai pris en charge dans les années 90, même, 90, une de mes patientes, elle avait 5 CD4, il lui restait quelques semaines à vivre, elle a eu la trithérapie, aujourd'hui, je la suis toujours, elle a 700 CD4, elle a un mari, bon, elle n'a pas voulu avoir d'enfant, etc. Et donc, plus l'immunodépression est importante et plus il va y avoir des maladies opportunistes graves, le cytomégalovirus, la candidose, etc. Et donc, en fait, c'est lié au... vous voyez sur cette diapositive la valeur prédictive de la charge virale. Donc, plus la charge virale... Alors, je montre sur une diapositive plus simple, c'est le train qui va dans le précipice. Il y a deux éléments qui comptent, le taux de CD, le nombre de CD4, hein, et deuxièmement, la charge virale. Le taux de CD4, c'est la distance par rapport au précipice, et la charge virale, c'est la vitesse du train. Donc, moins vous avez de CD4 Et plus le train va vite, parce que vous avez une charge virale spontanée à 100 000, il y a des patients, ils ont 100 000, il y en a d'autres, ils ont 1000. Chacun est différent. Hein, c'est lié à sa propre immunité. Et bien, plus la charge virale est élevée et plus moins on a de CD4, et plus on est proche de l'issue fatale. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public ?
Donc, la question était, pouvez-vous préciser ce que sont les CD4 pour les personnes qui ne sont pas en science et qui, enfin, pas en biologie, du moins ?
C'est un petit challenge. Je ne me suis pas préparée dans ma tête à expliquer vite ce que c'est le CD4. Donc, dans la défense immunitaire, on a des lymphocytes. On a des lymphocytes B qui font des anticorps. Et on a des lymphocytes T qui servent aussi à se défendre. Dans les lymphocytes T, on a deux groupes. On a le groupe des cellules tueuses qui vont se débarrasser, aider à se débarrasser des cellules infectées, donc qui sont très actives. Et c'est elles qui permettent essentiellement de contrôler le virus chez un individu infecté. Et puis on a les petites dernières, on a ceux qu'on appelle les lymphocytes TCD4, ou de leur petit nom les T4, et en fait eux, on a coutume de dire que c'est le chef d'orchestre de la réponse immunitaire, c'est-à-dire qu'ils vont produire des petites molécules qui vont dire au B, toi tu travailles pas, fais-moi des anticorps comme ci, des anticorps comme ça. Et puis, pareil, au niveau des CD8, qui vont leur dire, vas-y, gros, travaille, là, il y a une infection, faut que tu ailles me tuer tout ce qui est infecté, sinon, c'est pas bon pour le système immunitaire. Donc, le virus VIH utilise les lymphocytes TCD4 pour se multiplier, et donc, il tue le chef d'orchestre. Donc, imaginez ce que donne un morceau de musique sans chef d'orchestre. Ça s'appelle de la musique nouvelle, certains aiment bien, mais c'est âpre à l'oreille. Voilà.
C'était le premier épisode de cette série autour du VIH, dans le cadre d'une conférence sur le VIH organisée par les associations FEM et Tributaire, avec les docteurs Lucille Mollet et Thierry Prazuc. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés.
Vous pourrez réécouter cet épisode et la série de 4 épisodes sur orléans.radiocampus.org, dans la catégorie « La science infuse ». Vous pourrez également retrouver les différents réseaux sociaux de Tributaire, FEM et Radio Campus Orléans sur Instagram avec tribu.terre, fem.45 et radio_campus_Orléans. Le prochain podcast portera sur le thème « Le VIH, où en est-on ?»
Radio Campus. La science infuse.
Let's go.
Okay.
Everything you hear, every single news, keep you living in fear.
The link to the coronavirus. That's right.
It's a recurring theme now. Everyone dies alone.
Men and women are exhausted. The system is at breaking point, and they are as well. But they keep going. They aren't the front line in this war.
De graves dommages aux esprits jeunes et impressionnables.
Le Père Noël hospitalisé en service de réanimation.
This world is ending.
This world is not real.
That isn't possible.
Pour la première fois ce soir, on est évidemment déconfiné.
attestation.
Is this man?
Le choix des mots en dit beaucoup sur l'état d'esprit.
He's still too weak, but he waved. He is recovering.
Ici, tout a été pensé pour nuire à la santé.
Improved or worse, they died.
Agora
capoeira de outrora. Branco e negro tão junto, vem ver.
Capoeira de agora, capoeira de outrora. Branco e negro tão junto, vem ver.
Foi no dia do sol que a humanidade criou a vontade para o novo rei.
Foi no dia do sol que a humanidade criou a vontade para o novo rei.
Foi no dia do sol que a humanidade criou a vontade para o novo rei.
Foi no dia do sol que a humanidade criou a unidade.
Deixa comigo, capoeira do jogo é xinga de paz, é paixão verdadeira. É paixão verdadeira, raiz derradeira. Quando entro na roda, a tua energia irradia o brilho de todo o meu ser. Que essa luz do meu ser soberano venha sempre me benzer.
Honey, I got it all. Joke as shown by find a way.
They want me to be grateful and swallow all the faults, but freedom is not permitted until my face is on the floor. Smile at me with your prejudice, pretending that you love my skin. Paint me white just as you please. You'll never respect my integrity. I see the light at the end of the tunnel. I see the light at the end of the tunnel. I see the light at the end of the tunnel. I see the light at the end of the tunnel. It's so sweet. I got a plane to catch and I already feel exhausted. This bitch is clueless, I feel like she might be needing some conscious. They see some pretty braids, humor right becomes an option. The fuck you think? I came from nothing, so you keep me as your hostage. I see the light at the end of the tunnel. I see the light at the end of the tunnel. It's so sweet. I see the light at the end of the tunnel. I see the light at the end of the tunnel. It's so sweet. I'm sitting on a bench silently, hands in my pocket so you won't see me. Ready to attack, away patiently. Pick you up, be killed, this is how it is. My ID is black like my melanin, dark as a thought to my paper that I'm writing in. Unforgettable the way people make me feel, but I'll grow stronger. I'll be swimming in your money streams. I see the light at the end of the tunnel. I see the light at the end of the tunnel. I see the light at the end of the tunnel. I see the light at the end of the tunnel. It's so sweet. I see the light at the end of the tunnel. I see the light at the end of the tunnel. It's so sweet. I see the light at the end of the tunnel. I see the light at the end of the tunnel. It's so sweet. I see.
Our choices were all in vain. Learn to absorb the fate and do not dare to complain. When everything was lacking, it's illusion we ate. If damages come out, we won't waver, no we can't. Wish I could say
where life is a mistake.